Accès libre avec Luc Fortin.
Ben oui, nous sommes là en ce lundi 15 juin et nous ne sommes pas les seuls à être là, Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et moi-même, parce que il y a une fébrilité dans le couloir. Il y a des sandales, il y a des chaussures, ça se promène. J'ai l'impression que cette semaine, c'est un petit peu la rentrée des classes chez Vusez-Voix ou pas tout à fait, Jean-Sébastien, toi qui es plus souvent ici que moi?
Il y a beaucoup, beaucoup plus de monde aujourd'hui qu'il y en avait la semaine dernière.
Oui.
La semaine dernière, c'était progressif. On était peut-être 6 ou 7 sur l'étage. Et là, j'ai perdu le compte. Je n'ai pas assez de doigts pour compter tout le monde.
Mais j'ai salué des gens là, que je n'avais pas salués depuis longtemps. Et c'est pas parce que je suis impoli, là, c'est juste qu'ils n'étaient pas là. Deux sujets québécois aujourd'hui, entre autres, certaines capsules, comment avoir accès à Zoom si vous avez un handicap visuel comme moi. Également, je fais ma place en garderie. Depuis 2 semaines, le service de garde ou des garderies a repris, mais comment ça affecte les enfants qui ont des besoins particuliers. On ira en France, j'ignore où, j'avoue, on va demander à Sébastien Joachin lorsqu'on lui parlera. Et on commence à Longueuil. Bonne nouvelle d'ailleurs, tiens, parlant de reprise ou de on m'a dit qu'on serait là tout l'été. Je pense que c'est le premier été qu'Accès Libre est là tout l'été. Alors, j'allais presque dire, soit-on qu'il y a des problèmes tout l'été pour nous donner du jus, mais vous savez que c'est l'animateur qui cherche du travail en moi et non la personne handicapée visuelle qui, elle, veut se promener sans difficulté, veut vivre sans difficulté, veut son accès libre. D'ailleurs, les 5 étés que j'ai passés à Longueuil, je travaillais tout près de la rue Saint-Charles, sur Saint-Jean, et les 5 étés, j'ai eu de la difficulté à me déplacer à cause des terrasses qu'on aménageait. Mais là, COVID-19 oblige, il y aura d'autres aménagements qui seront dispersés dans la ville. On va en causer parce qu'il y a certains organismes qui sont qui sont inquiets, en fait. C'est pas qu'ils sont pas contents, c'est juste qu'ils sont inquiets et on veut mieux comprendre le plan de la ville de Longueuil. Tommy Théberge est membre du conseil exécutif. Il est donc conseiller municipal. Tommy et moi, on se connaît. Je vais vous voyez, mais je vais quand même vous tomiser, Tommy. Salutations à vous.
Salut, Luc. Je vais me permettre de t'appeler Luc. Tu peux l'appeler Tommy, il n'y a pas de problème.
Si vous saviez, j'aimerais tellement que tous les invités prennent ce réflexe-là, d'ailleurs. Tommy, peut-être faire un inventaire rapide des aménagements temporaires qui seront proposés sur l'ensemble du territoire de la ville, parce qu'il n'y a pas que dans le vieux Longueuil, là.
Ben, en fait, au niveau de la ville, c'est sûr que, bon, avec l'arrivée de la pandémie, la COVID, tout ça, ça a remis beaucoup d'activités en question dans le sens de la programmation estivale qu'on connaît habituellement, la programmation culturelle, l'effervescence qu'on a dans nos parcs, tout ça. Donc, malheureusement, il y a beaucoup d'activités qui n'auront pas lieu d'ici au 31 août. Par contre, il y a quelques bons coups au niveau culturel qui s'en viennent, que ce soit avec le théâtre de la ville, avec le théâtre déambulatoire, tout ça. Évidemment, l'accès à nos grands parcs reste ouvert, nos installations aussi, donc jeux d'eau, les parcs, tout ça. Donc, évidemment, dans le respect des consignes hein, de la santé publique, donc on fait attention à tout ça pour assurer la sécurité de tous nos citoyens. Puis bien sûr, ben, un beau projet, puis un projet, je pense, qu'on peut être très fier, c'est-à-dire le projet temporaire là, sur Saint-Charles qui aura lieu cet été avec les terrasses, aires de détente.
Il me semble que j'ai vu quelque chose sur Curé-Poirier également, ça se peut-tu? Je suppose que c'est des réfections, des constructions, bref, il y aura des entraves sur Curé-Poirier.
Ah, c'est sûr qu'il y a il y a quand même des travaux. Longueuil, c'est une ville aussi où ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de travaux au niveau des infrastructures. Il y a
oui, puis avec les 3 mois de pause, on a du rattrapage à faire, là.
On a du rattrapage à faire, comme sûr. Plusieurs villes,
ben oui.
Mais c'est parti, ça va bon train. On a tantôt je parlais des parcs, tout ça, mais aussi on a dans le coin de Jacques-Cartier, on a un immense parc canin aussi là, qui va être réaménagé. Donc, il y a plein, plein de trucs comme ça qui se font. Fait que c'est sûr qu'il peut y avoir des petites entraves au niveau de la circulation, mais on essaye quand même de faire ça, que ça soit le plus fluide possible.
Bon, justement, alors, que ce soit pour moi avec ma canne blanche, que ce soit pour les gens en fauteuil roulant qui veulent prendre l'autobus, mais l'autobus peut peut-être pas se garer sur le bord du trottoir parce qu'il y a couloir sanitaire, qu'est-ce que vous avez pris comme mesure pour rendre ça convivial pour tous?
Ben, en fait, vous parlez de Saint-Charles?
Oui, oui. Oui, okay, surtout. Donc,
le projet de Saint-Charles, c'est un beau projet. En fait, ce qu'on voulait, c'était aménager cet espace urbain-là de telle sorte que les gens puissent aller cet été encourager nos commerçants locaux. Hein. Vous savez qu'avec la pandémie, il y a eu plusieurs enjeux, plusieurs impacts aussi sur nos commerçants. Puis ce qu'on voulait aussi, ben, c'était de permettre aux gens, aux commerçants, tout ça, de créer une petite énergie, une petite vie urbaine dans ce secteur-là. Donc, on va aménager entre Saint-Sylvestre et Chemin Chambly un aire de détente, de terrasse. Donc, de la manière que ça se présente, donc, de chaque côté, les deux voies piétonnes, les deux voies de circulation piétonnes, ceux-là, ils sont conservés. Donc, le 1,8 mètre est respecté. Donc, les gens, autant direction est que ouest, vont pouvoir marcher comme d'habitude sur Saint-Charles. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on propose de fermer une voie à la circulation l'aménager donc avec des terrasses, du mobilier urbain, donc un corridor vraiment dédié aux personnes, aux commerçants. Et évidemment, bien, il va y avoir des tables, il va y avoir du mobilier urbain. Au niveau du mobilier, bien sûr, il va y avoir... va s'ajouter tranquillement des tables adaptées.
Et ces ajouts-là, Tommy, c'est pour oui. D'ouest en est ou d'est en ouest?
Ben, en fait, c'est direction est.
Okay.
La voie de circulation reste ouverte.
OK, donc on peut aller vers l'est en voiture?
Oui, et donc, c'est-à-dire pour les gens. Donc, si je pars du métro Longueuil et je m'en vais direction Chambly, la voie de circulation... Ça va bien.
Parfait.
Dans l'autre sens, elle est fermée.
Donc on prend Bordelot, Saint-Laurent, Le Moine.
Le tronçon Saint-Sylvestre-Chambly, quand même, c'est pas une grande distance non plus à couvrir. Donc, on peut aussi aller chercher les arrêts d'autobus qui sont prévus habituellement, là, au coin de Chambly et Saint-Charles, et l'autre au coin de Saint-Sylvestre et Saint-Charles. Donc, ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Truc intéressant aussi, on a prévu, puis ça, je vous l'annonce, là, on va acheter, aménager une trentaine de rampes pour que nos personnes à mobilité réduite puissent avoir accès aussi aux terrasses, puis profiter de ce corridor-là, de cette section terrasse détente-là, pour pouvoir, évidemment, s'amuser, puis prendre un bon repas, pourquoi pas... cet été.
Donc là, on se promène sur le trottoir, ou bon, dans le temps, les terrasses étaient sur le trottoir, du moins entre Saint-Sylvestre et peut-être Saint-Jacques, là, à peu près. On marche dans la rue ou sur le trottoir si on veut marcher?
Les trottoirs restent dégagés comme d'habitude.
Okay.
Donc le 1,8 mètre, ça, il n'y a pas de problème, mais on aménage une voie de circulation supplémentaire, donc à peu près un 3 mètres, où les gens vont pouvoir circuler pour aller, évidemment, d'une station à l'autre, d'un commerce à l'autre, d'une terrasse à l'autre. Donc, c'est un ajout. Mais la personne qui est habituée, qui prend toujours le même trajet, je pense, les utilisateurs de canne blanche, notamment, où on est familier avec notre trajet, je ne sais pas moi, direction est ou ouest, puis je prends toujours le même trajet, bien, eux ne verront pas de différence. Donc, ça va être pour eux, il n'y a pas de changement, puisque ça demeure tel quel. Par contre, on en ajoute une voie donc supplémentaire donc pour ceux qui voudront se balader un petit peu plus dans la voie de circulation.
Et mes arrêts d'autobus sur Saint-Charles, je les prends sur bord de l'eau, les autobus?
Ben, si vous voulez retourner au métro,
oui.
Donc,
c'est toujours utile.
Vous pouvez, oui, c'est toujours utile, ou ailleurs. Donc, vous pouvez évidemment aller sur bord de l'eau,
okay.
Mais en même temps aussi, vous pouvez vous rendre au coin de Chambly,
ouais.
Saint-Charles, ouais. L'arrêt est là, l'autre de l'autre côté, Saint-Sylvestre et Saint-Charles, si vous ne voulez pas descendre jusqu'à bord de l'eau. Donc, c'est un choix que le RTL a fait aussi. C'est le plus proche. Donc, et évidemment, ben, en fermant une voie, il faut quand même permettre aux gens de retourner en direction du métro.
Okay.
Donc, c'est ce qui a été fait. Là.
Dans un article d'Ali Dosti du Courrier du Sud, la ville précisait qu'elle trouvait normal d'avoir contacté les organismes comme l'Association des usagers du transport adapté de Longueuil le jour de l'annonce publique. C'est pourquoi travailler comme ça? Vous avez un plan d'intervention pour les personnes handicapées. Vous avez des organismes, vous avez même des spécialistes en orientation mobilité d'INLB. Pourquoi pas avoir travaillé en partenariat avec ce monde-là, Tommy?
Ben en fait, j'ai pas vu la mention normale, mais de toute façon, je vais vous expliquer rapidement. Premièrement, c'est un projet qui s'est monté rapidement en 3-4 semaines. Évidemment, on a une équipe, nous, qui, dans tous les projets de la ville, applique les règles en matière d'accessibilité. On a tenu une assemblée de consultation au mois de novembre dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour justement les travaux d'aménagement futur sur Saint-Charles. Mm-hmm. Donc, ils ont bien en tête toutes ces règles-là. Je vous dirais même que ce qui est proposé cette année dans l'aménagement, ça respecte l'ensemble des règles. Par contre, mea culpa, puis moi, je dirais qu'il y a des... comme dans tout projet, il y a des trucs à apprendre. C'est sûr que de faire appel aux experts, parfois pour valider certains éléments d'un projet, c'est intéressant en amont. Donc, et bonne nouvelle à vous annoncer aussi, il va y avoir une marche exploratoire très bientôt avec des spécialistes dans le domaine de la réadaptation, que ce soit en déficience visuelle ou motrice. Donc, il va y avoir une marche avec des acteurs de la ville, des gens impliqués dans l'aménagement de Saint-Charles, des experts en accessibilité. Puis ensemble, ils vont parcourir le trajet, puis ils vont relever s'il y a des éléments qui pourraient être améliorés ou bonifiés. Donc, ça, c'est... C'est une belle initiative qui va nous permettre encore une fois de documenter puis de s'améliorer à la ville.
Ouais. Poliment, là, je dirais que c'est plutôt du rattrapage qu'une initiative, mais au moins, mieux vaut tard que jamais, parce que si ce n'est que pour rassurer les gens, je pense que parfois ça vaut la peine de loger un petit coup de fil juste avant. Par ailleurs, ça commence quand cet aménagement-là?
Les aménagements vont commencer
le 22?
Un peu cette semaine. Okay. Ça commence déjà avec le marquage au sol, la préparation, les livraisons du mobilier, les installations. Donc, c'est déjà en route. Tout le rafraîchissement du marquage, c'est vraiment important. S'assurer qu'il y a des bons contrastes aussi, donc ouais. Pour que les gens puissent circuler de la manière la plus sécuritaire. Les barrières, protéger les tronçons aussi pour éviter justement qu'un automobiliste prenne le mauvais chemin. Donc, tout ça va être fait aussi. Là. Donc, c'est parti.
Okay.
Les travaux commencent cette semaine.
Bon, on vous souhaite un bel été, sans les percussions malheureusement, mais un beau petit flash. Le groupe Parcomètre, qui fait plein d'activités dans le parc cet été, s'appelle Parco 2 mètres. J'ai trouvé ça quand même, c'était bien pensé.
C'est un beau clin d'œil.
Oui. Le brainstorm a été très efficace pour ça. Merci Tommy Théberge.
Bonne journée.
Tommy, qui est membre du conseil exécutif Ville de Longueuil. Lynn Dubé s'en vient, tiens, d'une personne handicapée visuelle à l'autre.
Le cœur de l'océan, c'est ton cœur. C'est là que je vis. Loin des grands malheurs, à 20 000 lieues de ce qui fait mal aux yeux, dans la lumière douce de ton regard bleu, le cœur de l'océan, c'est ton cœur. C'est là que je dors, au milieu des fleurs, loin des tempêtes et des forêts en feu, dans un drap tissé, juste pour nous deux. Même si je sais qu'il n'existe pas, ce pays où l'on n'arrive jamais, peut-être que nous on y arrivera. Dans ce royaume que tu m'as inventé. Oui, si je sais qu'il n'existe pas, arrivera s'il faut marcher 1000 ans? Je marcherai. Le cœur de l'océan, c'est ton cœur. C'est un matin calme dans un monde sans peur. C'est 1000 couleurs sur les murs des banlieues. C'est un jardin où le ciel est toujours bleu. Même si je sais qu'il n'existe pas ce pays où l'on n'arrive jamais, peut-être que nous on y arrivera. Dans ce royaume que tu m'as inventé. Oui, si je sais qu'il n'existe pas le pays où l'on n'arrive jamais, je sais que nous on y arrivera. S'il faut marcher 1000 ans, je marcherai. Le cœur de l'océan, c'est ton cœur. C'est là que je dors, au milieu des fleurs. Loin des tempêtes et des forêts en feu. Dans un drap tissé, juste pour nous deux. Dans un drap tissé, juste pour nous deux.
Jean-Sébastien, le ou au cœur de l'océan?
Le.
Le cœur de l'océan. L'as-tu dit au peuple ou tu l'as dit à moi?
Je l'ai dit au, aux deux.
OK.
À tous. Tout le monde m'a entendu.
Je fais partie du peuple.
Ben oui.
Yeah. Lynn Dubé voulait entendre du Luce Dufault. Alors, ben Lynn, t'en auras deux fois plutôt qu'une. Tiens, ça fait longtemps
ben
qu'on n'a
ben
pas
merci.
Mis... Oui, oui, oui. Ça, c'est un extrait du... On pouvait pas mettre du Luce Dufault sans mettre un extrait de son plus récent. Ça faisait quand même 7 ans qu'elle n'avait pas sorti du nouveau stock. Elle a décidé de faire un album complet. Elle qui pensait, pendant quelque temps, faire juste quelques pièces ici et là et les mettre sur des plateformes. Mais on a un nouvel album depuis le mois de mars. Lynn, bon, une des raisons pour qu'on se parle aujourd'hui, c'est Zoom, ses formations, toi qui es chef de programme en technologie adaptée, ou en tout cas accessible, et responsable de la boutique pour Fondation INCA. J'ai utilisé 3 fois Zoom depuis un mois. Une fois, j'ai été obligé d'appeler avec mon téléphone. Une fois, j'ai appelé à travers l'application Zoom. Puis une fois, et ça, bravo Jean-Sébastien, je n'ai que cliqué et paf, je suis rentré directement dans la régie, presque dans l'émission qui était en cours parce que j'avais une intervention à faire. Mais c'est supposé être tellement facile, Zoom. C'est-tu facile ou c'est moi qui n'est pas bon?
Ben là, je voudrais pas dire que t'es pas bon.
Oh oui, tu peux.
Non, je pense que faut faire attention quand on parle de c'est facile ou c'est pas facile, OK? Parce que premièrement, ça dépend des compétences qu'on a en informatique, ça dépend de la facilité qu'on a avec notre ordinateur, notre téléphone cellulaire, nos connaissances. Puis quand on voit pas, ben là, on ajoute à ça un petit peu plus de défis, hein?
Ouais.
Fait que oui, c'est facile, mais moi, je peux te dire, parce que là, avec le confinement, on y a goûté pas à peu près. Et j'ai dû aider beaucoup de personnes à se connecter avec Zoom puis avec les différentes façons que tu as mentionnées.
Mais comment se fait-il qu'il y a autant de façons et est-ce que c'est possible de s'en tirer avec juste une façon et à la vie à la mort avec ça?
Ben moi, je pense que oui, puis c'est l'idéal quand on a la possibilité, c'est d'en choisir une, de s'y attacher puis de toujours la répéter pour que ce soit beaucoup plus simple.
Ouais.
Définitivement. Mais moi, je peux te confirmer que même, j'ai dû aider beaucoup d'aînés aussi avec le confinement qui n'étaient pas nécessairement des non-voyants Et c'était quand même quelque chose, juste de leur dire la troisième méthode que tu as utilisée, en cliquant sur le lien dans courriel et pouf, on arrive.
Okay.
Mais on arrive, mais il reste quand même des questions des fois à nous poser. Là, vous voulez vous connecter à l'audio comment, avec l'Internet ou avec... Ça finit pas, là.
Ouais, ouais. Pourquoi Zoom? Pourquoi pas, disons, Skype? Pourquoi pas FaceTime? Pourquoi pas... On dirait que depuis mars, on n'en a que pour Zoom.
Bien, je te dirais que Skype, pour l'avoir, pour pas avoir eu le choix de l'expérimenter avec Ami Télé, parce que c'est la méthode qu'eux, ils ont choisi pour poursuivre de nous laisser en ligne.
Les tournages, oui.
Là, je me sentais comme toi un peu. Là. Okay. Quand j'essayais de me connecter avec mon ordinateur, j'ai dit, aïe, ça se peut pas, j'arriverai pas. Je dis, écoute, la fille en techno, elle y arrivera pas, ça va pas bien. crois-le pas, j'ai sorti mon cellulaire et c'est avec ça que je me suis connectée à Skype, parce que Skype, dans les récentes versions, ne sont pas aussi accessibles et faciles pour le commun du non-voyant. Fait que c'est probablement une des premières raisons pourquoi on n'est pas allé avec Skype, parce qu'on était déjà Skype entreprise, nous, chez nous en plus, okay, là, INTA. Okay.
Parce que là, toi, tu as fait des capsules sur le site de Fondation INCA et tu as choisi Zoom comme moyen pour faire en sorte que si jamais on avait à se connecter avec le reste de la planète, on puisse le faire.
Bien, il y avait plusieurs raisons. Premièrement, il y a une raison un petit peu égoïste aussi, sérieusement, parce que nous, on utilise Zoom, bien, on voulait que nos clients puissent être capables de se connecter aux différents cafés rencontres, cafés techno, aux ateliers, qui se font tous d'ailleurs sur Zoom. Fait que c'est sûr que ça, c'était la première raison. Mais la deuxième raison, c'est comme tu l'as mentionné, tout le monde s'est viré vers Zoom.
Ouais, ouais.
Probablement parce qu'on le cachera pas que même si c'est pas toujours facile puis qu'il y a plusieurs méthodes pour se connecter, il reste que la personne qui a créé ça a quand même fait quelque chose de bien accessible. Je parle juste de l'application sur l'ordinateur. Là, écoute, c'est impressionnant. Moi, je trouve que c'est pas mal bien fait.
Jean-Sébastien, toi qui travaille un peu, que ce soit avec la console ou probablement aussi avec des amis, une famille en Abitibi, t'es Zoom, t'es Skype, et pourquoi ici, c'est Zoom pour les émissions qui utilisent ce type de moyens?
Je vais commencer par la deuxième question. Zoom, c'est justement parce que c'est tout le monde et on est allé aussi vers ce que les gens avaient le plus de chances de déjà connaître comme plateforme plutôt que d'aller parce qu'il y a, pour avoir regardé, il y a des dizaines et des dizaines d'options. FaceTime, Skype, Facebook étant parmi les plus connus. Et il y en a vraiment, vraiment beaucoup d'autres, mais qu'ici, on ne parle pas. Donc, c'est une question, justement, de popularité.
C'est l'histoire de la saucisse, finalement.
Plus ou moins, mais si on y va avec, par exemple, FaceTime, parce qu'on a déjà, parlé de Skype. Ben, Lynn a déjà expliqué pour Skype tantôt. FaceTime, il faut avoir un appareil Apple. C'est pas tout le monde qui est Apple. Il y en a qui ont des Android. Donc, déjà là, ça met une barrière. Pour ce qui est de Facebook Messenger, ben, il faut qu'on soit sur Facebook et il faut qu'on soit ami Facebook. Donc, ça enlève la spontanéité de « faut qu'on se connecte d'abord, qu'on devienne ami, après ça, qu'on puisse utiliser ça. » Tandis que Zoom, on envoie l'information par courriel et qu'on ait un compte Zoom ou qu'on n'ait pas de compte Zoom, on peut se connecter.
C'est vrai. Lynn, je remarquais, les deux capsules que j'ai vues, c'est à peu près quoi, du 8 minutes, 9 minutes, donc c'est pas laborieux, pas du tout.
Non.
On entend bien le téléphone... lorsque tu nous dis « faites ça et vous allez trouver en haut à gauche », on te suit très, très bien. Mais toi, ça t'a pris combien de temps à produire ça?
Bien, en fait, j'ai eu l'avantage de l'utiliser beaucoup. Fait que je le maîtrisais quand même bien, au moins au niveau de la connexion et tout ça. Ce qui a été le plus difficile, que j'avais essayé de t'expliquer, que pour moi, j'ai l'impression que je te parle en chinois, c'était plus d'être capable de vous montrer qu'une fois même rendu dans la réunion, là, on entendait le doum-doum,
ouais.
Là, on est rentré.
Ouais.
Ça a été compliqué parce qu'on veut s'enregistrer, mais là, tu t'enregistres où? Tu peux pas t'enregistrer sur Zoom parce que ça marche pas. C'est pour ça que même le son, il est pas super génial. Là. Moi, je trouve que c'est pas très beau. Je suis pas bien équipée pour pouvoir faire une qualité de son super. L'objectif, c'était pas ça, c'était d'être pratique.
C'est ça, tu gagneras pas un Oscar avec ça, on s'entend.
Non,
mais c'est vraiment pas le but de la démarche.
Non, c'est ça. Fait que, puis c'était, il y avait aussi comme un peu comme une urgence, hein, quand on s'est parlé aussi, là, c'était comme...
Parce que hors des zones, on... c'est ça, ça fait quelques semaines que Lynn et moi, on... en fait, Luc souhaite avoir des capsules comme Lynn a fait, mais pour plein de petites choses comme ça, des petits trucs, des petits... et je sais très bien que si moi j'en ai besoin, il y a plein de gens qui... Parce que Applebee's le fait en anglais, il y a du stock en anglais pour les personnes handicapées visuelles qui veulent apprendre comment utiliser leur téléphone. C'est très rare en français.
Il y en a un petit peu, là. On n'est pas là pour... je suis pas là pour me planter puis nommer ceux qui en font, mais il y en a quand même quelques-uns. Mais malheureusement, c'est toujours de l'autre côté de l'océan. Alors pourquoi pas ici au Québec avoir quelque chose pour nous? Puis il y a une série là, qui s'en vient là, sur les différents gestes à utiliser avec VoiceOver. Donc, tous les gestes à un doigt, tous les gestes à deux doigts, tous les gestes à trois doigts. Puis ça va être une capsule par geste. Alors, ça sera pas lourd encore. Ça tourne toujours autour du 7-8 minutes. J'ai retenu ce que tu m'avais déjà dit, Luc, que c'est important d'avoir quelque chose de court et précis. On sait où est-ce qu'on s'en va, puis on peut le pratiquer, puis on a retenu ce qu'on a écouté.
Est-ce que tu sais, parce que je sais que souvent, INCA met des plages horaires pour ci ou ça, de façon à aider la clientèle qui en a besoin. Est-ce qu'il pourrait y avoir des plages horaires pour ceux et celles qui ont des questions sur la capsule ou on te contacte sur une base personnelle? Enfin bref, quel service après-vente y a-t-il suite à ces capsules-là, Lynn Dubé?
Bien, en fait, là, il y a toujours la possibilité, puis c'est toujours mentionné aussi parce qu'on fait la capsule double-clic aussi à Mi-Télé.
Ouais.
Puis moi, je le mentionne tout le temps, c'est important, vous êtes un client, vous n'êtes pas un client, vous avez une question, vous envoyez un courriel à mon attention, lynne.dubé, pas d'accent, à commercial.inca.ca, ou vous m'appelez. Poste 253, on va être là, on va vous répondre. Peut-être que ça ne va pas prendre 2 heures. Là. Peut-être que je me donne des fois un petit 48 heures avant de retourner l'appel, mais vous allez toujours avoir une réponse.
J'imagine aussi que si les gens ont des suggestions de capsules, des trucs, soit qui a amélioré leur quotidien et leur utilisation du téléphone, et ils veulent partager ça en disant « il me semble qu'il y en a d'autres qui pourraient en profiter », ou l'inverse, de dire « je ne sais pas comment localiser mon téléphone ». Si mon téléphone est parti, comment je fais pour demander à mon téléphone de trouver mon téléphone? Bon, des niaiseries comme ça, mais
oui,
qui fait que...
Oui,
c'est
parfait. Ben
oui, ben oui.
On est ouvert.
OK, OK. Dans tous les sens du mot, là. D'ailleurs, INCA n'a jamais fermé.
Non, non, ouvert plus que jamais.
Oui, tout à fait. Lynn Dubé, donc, chef de programme en technologie accessible. Elle est aussi responsable de la boutique. Les heures d'ouverture de la boutique, c'est quoi? Du 9 à 5, lundi au vendredi?
Ah, oh, écoute, c'est tant que je suis au bureau, vous m'appelez. Juste avant de passer en onde, j'ai quelqu'un qui m'a appelé.
Merci, Lynn.
De rien.
C'est vendredi soir. Vous écoutez Accès libre.
Ça me surprend toujours, ce petit bout-là où Colt, je sais pas trop quoi, n'a pas le temps de finir que... Pierre nous dit qu'on est à Accès libre. Ben oui, avec Jean-Sébastien Laliberté, Christiane Compagnon était à la recherche, elle était dimestrée. On va essayer d'être poli aujourd'hui, là, puis on va essayer de lui donner du temps, ce qu'on n'a pas fait tout à fait la semaine passée. Véronique Lisotte est avec nous. Elle est adjointe à la coordination et intervenante à l'organisme « Je me fais une place en garderie ». On voulait causer avec Véronique parce que, c'est quoi, c'est il y a 2 semaines que... les garderies ont ouvert leurs portes. Me semble que c'est ça, Valérie, il y a 2 semaines, sur l'ensemble du territoire?
Oui, mais bonjour.
Oui, j'ai dit Valérie, Véronique, merci.
Oui, tout à fait. Donc, merci de me recevoir à l'émission aujourd'hui. Oui, effectivement. Alors, dans la grande région de Montréal, c'est depuis le 1er juin là, que les services de garde ont repris un nouveau service, mais il faut quand même préciser que plusieurs... sont ouverts aussi depuis le début de la pandémie là, comme service d'urgence. Ouais. Voilà.
Où en sommes-nous justement avec l'équilibre difficile entre règles de distanciation et besoin de chaleur humaine?
En fait, on en est quand même dans une grande période d'adaptation. Pour l'instant, on est toujours en attente. Il y a des demandes qui ont été faites en ce sens, là, d'une part là, des services de garde eux-mêmes, mais aussi peut-être vous l'avez entendu là, de la part aussi de plusieurs pédiatres et médecins spécialistes pour avoir quand même de l'assouplissement au niveau de la distanciation. Mais c'est sûr que c'est une adaptation. Là, on est encore en ce 15 juin dans la phase 2 là, de réouverture, ce qui veut dire que là, les services de garde sont à 50 % là, de leur capacité d'accueil. En ce qui concerne comme tel là, les enfants qui présentent des besoins particuliers, des handicaps, c'est sûr aussi que c'est une organisation. D'une part, parce que pour plusieurs, la distanciation, comme tous les enfants, c'est, le concept est difficile à comprendre. Ouais. Là, le personnel sur le terrain vous dirait que effectivement, c'est difficile entre les enfants, mais il y a pour des enfants aussi que la compréhension est très difficile, puis d'autres qui ont besoin d'avoir vraiment un contact direct aussi avec l'adulte qui vient les aider. Il y a des enfants aussi qui ont besoin d'un peu plus de soutien, ne serait-ce que pour l'alimentation, les déplacements. Alors, c'est sûr qu'il y a des contacts plus directs auprès de ces enfants. Ouais. Oui, tout à fait.
Bon, il n'y a pas de mauvaise réponse à ma prochaine question. Si certains pédiatres, on a entendu là, des appels à un assouplissement des mesures, est-ce que le personnel, en général, est favorable à cet assouplissement-là ou on serait peut-être un petit peu inquiet d'être trop près les uns des autres? Quel est le pouls lorsque vous l'avez tâté auprès du personnel en général?
En fait, de façon générale, je dirais, on a fait aussi dans le cadre, je me suis une place en garderie, tout ça impliqué, hein, la table d'intégration des services de garde dans la région de Montréal. Puis on a même fait une consultation là auprès justement des services de garde, des parents, des partenaires du réseau de la santé, des organismes communautaires pour avoir un peu ce pouls-là.
Oui.
Et puis, je dirais que en grande majorité, les gens sont favorables. Mais c'est sûr qu'il y a aussi certaines inquiétudes. Mm-hmm. Ne serait-ce pour des enfants aussi qui présentent des problématiques aussi là, associées là, au niveau de la santé, qui auraient des risques un peu plus grands. Fait que c'est sûr qu'il y a des inquiétudes du côté des parents, du personnel qui se questionne, mais toujours aussi dans un respect que, par exemple, une famille qui reçoit le hockey de son médecin, ben l'équipe est bien favorable à l'assouplissement. Là, je pense que pour les adultes, c'est clair qu'ils ont envie, les éducatrices, de respecter les consignes. Eux-mêmes là, doivent porter aussi là, au niveau des règles. Là, tout un attirail, là, si vous me permettez, là, le masque, la visière, les gants et autres. Mais je pense qu'entre les enfants, on se rend bien compte. Là, moi, j'ai pu constater aussi que c'est difficile entre eux aussi. Là, ouais. Sinon, on fait toujours des rappels aux enfants de garder une distance. Là, spontanément, ils sont portés de toute façon à aller les uns vers les autres. Ça fait partie un peu du développement. Mais je vous dirais que dans tous les milieux, de toute façon, ce qu'on se rend compte en ce moment, comme on est dans une période d'adaptation, c'est que c'est à géométrie variable. Il y en a que...
Ben, c'est sûr, ça dépend des parents. Moi, je vois certains enfants qui s'amusent dans les structures du parc, pas loin de chez moi. J'ai vu à un moment donné plusieurs enfants qui jouaient avec des toupies. Ils étaient vraiment pas à 2 mètres, c'est-à-dire, c'est ça, ils étaient pas à 2 mètres, ils étaient beaucoup plus près que ça. Et les parents, finalement, ce qu'ils disaient, c'est chacun sa toupie, ne prêtez pas vos instruments, vos jouets, mais on a relâché un peu, on s'est dit, ben là, il faut jouer, il faut s'amuser, il faut... Et je présume qu'il n'y a pas que les parents dans les parcs, là, à un moment donné, même si M. Arruda a peut-être pas donné le hockey officiel... Jacinthe à la garderie va peut-être laisser passer.
Ben, comme je dis, c'est ça. Ça dépend de chaque milieu. Je pense qu'ils ont le souci aussi, tous les services de garde, de respecter les consignes, mais ouais. Effectivement, dans la réalité, parfois, certaines sont peut-être plus difficiles. Il y a aussi tout l'aspect de la... vous parlez là, justement de jeux, de jouets, de toupies. Ben, je pense que dans un service de garde, il y a des jours, on essaie de limiter justement tout ce contact-là. Mais il y a toute la désinfectation qui est très, très prenante. Que c'est une tâche supplémentaire dans le quotidien aussi là, des éducatrices qui doivent faire face aussi à ça puis composer avec cette réalité-là. Fait que c'est sûr que quand on va être un retour à 100% des enfants, il faut que les services de garde soient très, très créatifs, je vous dirais, dans la routine pour garder. Mais c'est sûr que pour le développement de tous les enfants, de toute façon, c'est important, mais aussi pour des enfants, justement, qui ont besoin de ce contact-là ou d'avoir une stimulation, justement, à travers le jeu, il faut bien sûr faire preuve là, d'assouplissement et de créativité.
En conversation avec Véronique Lizotte, qui est adjointe à la coordination, elle est également intervenante à l'organisme Je me fais une place en garderie. Parlons maintenant administration. Bon, vous l'avez mentionné... les mesures obligeant, on a moins de place dans chaque garderie. Et je me suis demandé à un moment donné si, disons, les directions ne vont pas essayer, tant qu'à réduire, de laisser à la maison les cas les plus lourds. Ce serait tellement plus facile pour tout le monde, pourraient se dire les directions. Est-ce que vous avez rencontré ce type d'ennui?
En fait, je dirais de façon générale, tout le personnel, là, les directions sont des services de garde sont favorables à un retour. Là, toujours dans le respect des besoins, bien sûr, de l'enfant, si la condition de l'enfant le permet. Et du respect des besoins aussi là, des parents, puis bien sûr de leur capacité aussi à eux. Là, je pense que vous parlez du personnel, effectivement, là, faut aussi qu'il n'y a pas eu de précision là, du côté du MSA, vraiment au niveau là, du retour des accompagnateurs et des professionnels extérieurs en soutien à ces enfants. Je pense qu'on a laissé quand même une certaine marge de manœuvre là, au service de garde à appliquer. Puis, justement, quand je vous disais tout à l'heure qu'on a fait une consultation aussi à la table, mais l'équipe aussi, de façon générale, d'intervention, je me suis une place en garderie, on le constate aussi, c'est ce qu'on veut là, de pouvoir justement s'adapter malgré tout là, de la situation là, aux besoins des enfants, puis qu'on puisse offrir un soutien.
Mais ça, je comprends, mais vous n'avez pas rencontrer des obstacles, à savoir, bon, l'administration d'une garderie se disant « je n'ai que 50% de capacité, alors on va laisser à la maison ceux qui risquent de nous donner, disons, plus de fil à retordre ». Vous n'avez pas rencontré ce type de situation-là?
En fait, dans les défis qui ont été dits, ça pas, moi, il n'y a pas quelqu'un qui me l'a dit de cette façon-là. Mmh. C'est plus de dire, exemple, les parents, ils sont pas dans les services essentiels. Donc, pour l'instant, l'enfant serait pas admis.
Ouais.
Ou, exemple, là, au niveau du personnel, c'est une réalité aussi, un défi que les services de garde font face. Il y a un retour aussi progressif du personnel. Il y a un enjeu aussi de pénurie. Donc, c'est des défis à laquelle ils font face. Et il y a aussi, en fait, il faut dire que quand même, le ministère là, a envoyé une lettre là, à l'ensemble des services de garde au mois d'avril dernier pour justement leur spécifier que si un enfant était un enfant qui était éligible là, à l'allocation enfant handicapé ou mesure exceptionnelle, de porter attention aux besoins justement si la famille avait besoin du service, même si le parent ne faisait pas partie là, des services essentiels, d'avoir l'ouverture à accueillir l'enfant.
Okay.
Donc ça, c'est une consigne que le ministère a fait assez rapidement là, dans une lettre qui s'appelait l'enfant vulnérable et on avait vraiment une partie sur les enfants là, handicapés à ce niveau-là.
Mais ça, c'est très bien parce que...
De façon générale, c'est... Il y a de l'ouverture. Je ne vous dis pas que ça existe
non,
pas
non, là,
des milieux qui sont plus peut-être réfractaires à un retour avec certaines craintes, mais pour en tout cas, nous, on est là pour travailler avec eux puis être vraiment soutenant le plus possible justement pour que l'enfant puisse retrouver aussi son milieu de garde.
Mais je trouve rafraîchissant, Véronique Lizotte, ce que vous venez de dire, parce que j'avoue que si l'ensemble de la population québécoise a été très, très... disons, reconnaissante à l'égard des mesures gouvernementales et de la présence du Triumvirat chaque jour. Je dirais qu'à l'émission, en tout cas, plusieurs organismes, et souvent on a senti, nous, de notre côté, que le handicap, le besoin particulier, l'accessibilité de l'information, les couloirs sanitaires, qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été omises chez la personne handicapée, les préposés à domicile qui n'ont jamais reçu d'augmentation et j'ai des amis qui ont perdu leur préposé parce qu'ils sont allés dans des lieux beaucoup plus payants. Mais là, ce que vous me dites me plaît, à savoir penser aussi au répit pour ces parents-là et ça, rapidement dans le problème. Tant mieux, tant mieux. Puis, écoutez, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de vous souhaiter à vous et à tous ceux et celles qui prennent soin de nos bouts de choux un bon été, ça c'est sûr. Je rappelle que vous êtes adjointe à la coordination et intervenante à l'organisme Je me fais une place en garderie. Véronique Lizotte, merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous. Bonne journée, bon été.
Lorsque j'avais rencontré Luce Dufault, elle m'avait dit « J'ai écrit cette chanson-là parce que je venais d'avoir un enfant et là, j'étais obligée d'aller travailler, de l'amener à la garderie. Je trouvais ça déchirant de ne pas pouvoir jouer avec elle. » Elle véritablement, des anges dans la neige était ce qu'elle aimait faire. Vous, que ce soit du vélo, jouer au ballon, essayez de transposer ça dans votre univers.
On fera des anges dans la neige quand je reviendrai. On on essaiera tous les manèges comme en plein été. Une balade autour de la terre, promis juré, quand je reviendrai. Ce soir te chercher, il faut que j'aille refaire de longs détours. Il faut que j'aille gagner la vie de tous les jours, c'est ma bataille. Il faut que j'aille. Laissera tomber le solfège pour improviser. On mettra du bleu sur le beige, on va dessiner. Un gros chocolat pour dessert, promis juré. Quand je reviendrai, ce soir te chercher. Il faut que j'aille refaire de longs détours. Il faut que j'aille gagner la vie de tous les jours, c'est ma bataille. Il faut que j'aille. Des anges dans la neige quand je reviendrai. On essaiera tous les manèges, on prendra congé. Mais ce matin, le temps me presse, je dois m'en aller. Mais je reviendrai, promis juré, toujours te chercher. Il faut que j'aille refaire de longs détours. Il faut que j'aille gagner la vie de tous les jours, c'est ma bataille. Il faut que j'aille. Dans la neige,
c'est beau ça. C'est tiré de l'album Demi-jour qui date de 2007. Bon, il est en perte de vision, il est auteur, il a fondé sa propre fondation, il est au bout du fil. Sébastien Joachin, salutations.
Bonjour, salutations.
Comment allez-vous?
Ça va bien, et vous-même?
Oui, oui, merci d'être là, c'est gentil. J'avoue, Sébastien, je ne connais, mais malheureusement, absolument bon, si peu de vous. Je n'ai pas trouvé votre livre en audio ici au Québec. J'ai vu bon des petites vidéos ici et là, mais j'avais envie qu'on prenne le 9 minutes qu'on a, un peu comme une rencontre speed dating, là, pour essayer de se connaître, de savoir un peu ce qui vous allume, ce qui vous motive. Comment vous définissez-vous, d'abord?
Alors, bon, bah, je suis atteint d'une maladie qui s'appelle la choroïde RMI. C'est une maladie très rare qui touche ma choroïde et qui me rend aveugle. Je suis aveugle de l'œil gauche. On m'a dit il n'y a pas très longtemps que mon œil gauche était foutu. Et il me reste un tout petit peu de vision à l'œil droit. Je me définirais comme une personne combative et une personne résiliente qui dépasse les limites que la maladie lui impose et qui ne veut pas accepter les limites imposée par la société.
Ouais. La choroidérémie, vous vous en apercevez depuis combien d'années?
En fait, c'est une maladie génétique dégénérative. On me l'a diagnostiquée quand j'avais 5 ans.
Très tôt, ouais.
Voilà, très très tôt. Et en fait, les conséquences ont évolué avec le temps et je suis devenu handicapé visuel vraiment à l'âge de 30 ans, 32 ans, parce que j'ai fait beaucoup de boxe. Et avec la maladie et la boxe, la combinaison des deux choses ne s'est pas très bien passée. J'ai un œil maritime gauche qui s'est déchiré à plusieurs reprises et puis j'ai fini par perdre mon œil gauche.
Vous faisiez quoi comme boulot? Est-ce que la perte de vision a modifié vos capacités à travailler? Avez-vous changé de boulot?
Totalement, totalement. J'ai fait des études pour avoir un diplôme, un master de psychologie sociale. Et j'ai dû faire des études à distance pour pouvoir gérer le handicap. Et en même temps, j'ai travaillé avec des enfants, j'ai travaillé comme vendeur en même temps que je faisais mes études. Et à partir du moment où, parce que j'ai repris mes études très tard, où la maladie a vraiment, vraiment évolué, j'ai dû laisser tomber le travail. Et puis pour reconnaître les enfants, les distinguer, et puis savoir qui fait quoi, c'était devenu impossible. Donc j'ai dû laisser tomber tout ça.
Ouais.
Et puis le travail a fini par me fuir, parce qu'avec une canne blanche, c'est beaucoup plus difficile de retrouver un travail.
La fondation, c'est venu où?
Alors la
dans
fondation,
votre vie, ouais.
Oui, alors c'était essentiel dans ma vie, l'association qui s'appelle SJKB, Sébastien Joachim Kicks Blindness, c'est une association qui est née il y a 5 ans en fait pour promouvoir la solidarité à destination des personnes handicapées visuelles. C'est une association qui me ressemble beaucoup parce qu'elle a la volonté d'être incisive et de ne pas baisser les bras. C'est une association qui essaye de soutenir les personnes déficientes visuelles, notamment en leur apportant des informations sur la recherche et les nouvelles choses qui se font pour guérir de la cécité ou pour stopper l'évolution des maladies, ou alors pour leur permettre de connaître des produits qui pourraient pallier le handicap visuel et les aider jour après jour. C'est aussi une association qui soutient la recherche et l'innovation et une association qui essaie de changer l'image des personnes déficientes visuelles en proposant les témoignages de personnes qui sont résilientes,
ouais,
accomplies professionnellement, personnellement, socialement.
Donc je comprends que ce n'est pas que pour aider la recherche en choroidérémie, là.
Non, du tout. C'est tout n'importe quel handicap à partir du moment où on est déficient visuel.
Ouais. Maintenant, pourquoi ne pas avoir décidé de vous allier à des organisations qui existaient déjà?
Parce que le SJKB, si vous voulez, fait les choses d'une façon un petit peu différente et ajoute ses compétences aux compétences d'autres grandes associations, des associations avec lesquelles je travaille, notamment sur un grand projet en ce moment qui s'appelle l'échographie 3D haptique, qui permet aux futurs parents déficients visuels d'avoir accès à l'échographie grâce à une statuette, qui est permise grâce à l'impression 3D. Et ça permet à des parents déficients visuels d'avoir accès donc à l'échographie, à l'image, si vous voulez, construite de leur fœtus avant qu'ils ne naissent. Ce projet, je me suis associé à des très grandes associations ici en France, des associations nationales.
C'est novateur, c'est super. En même temps, c'est pas nécessairement la première chose auquel on pense lorsqu'on veut combler un besoin. Comment c'est venu sur la table de rendre les échographies en 3D?
Alors, c'est un peu le hasard des rencontres, ça. J'ai une amie qui a une rétinite pigmentaire et qui devient aveugle et qui était enceinte il y a quelques mois. Et elle a rencontré un monsieur qui s'appelle Jean-Marc Levaillant qui a voulu absolument trouver une façon de compenser le handicap et de lui rendre l'accès au fœtus et à l'échographie comme n'importe quelle autre femme. Et il lui a proposé cette chose innovante et il voulait ensuite proposer cette innovation à toutes les personnes, les futures mamans, les futurs papas déficients visuels en France. Et il a demandé à mon amie si elle connaissait une association qui pourrait les aider. Et mon amie connaissait bien ce que je faisais. Et donc, elle lui a proposé d'entrer en contact avec moi. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble.
OK. Le titre du bouquin, « Une cécité à pas de loup ».
Oui.
Moi, je peux pas m'imaginer écrire sur moi. Comment est-ce d'écrire sur soi?
C'est un peu compliqué. Il faut avoir de l'autodérision, je pense. Faut pas se prendre au sérieux non plus. Je pense que C'est aussi, comment dire, ça permet un petit peu de mettre sur la table toutes ces peurs, toutes ces angoisses, ouais, toutes ces choses-là, et de les mettre à nu devant les gens. Je pense que ça demande aussi un petit peu de simplicité de faire ce genre de choses, et puis d'essayer de se montrer tel qu'on est, sans être trop indulgent avec soi-même, critique aussi. Et puis de l'essentiel, c'est de montrer l'évolution du handicap et de faire comprendre à ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que de perdre la vue. Et je pense que ça sera toujours utile, je pense.
Donc, au départ, c'était pas nécessairement thérapeutique, mais plutôt pédagogique.
Exactement, oui, mais mon but était de faire comprendre à ma famille, à mon entourage, à mes amis, aux personnes ensuite que je rencontre, et puis au final, au plus de monde possible, c'était pour leur faire comprendre ce que c'était que de perdre la vue, les conséquences sur la vie, sur le social, sur le travail, sur la psychologie, et puis c'était aussi pour apporter, de façon, simple aussi, des clés un petit peu pour que d'autres personnes qui ont un handicap visuel mais qui n'ont pas encore trouvé leur voie vers le bonheur, qui n'ont pas encore trouvé une façon de s'accomplir, de trouver un exemple, une référence. Alors, c'est pas positif ou négatif, mais juste un point de référence qui leur permette de se dire, voilà, je pourrais faire ça peut-être, je pourrais faire moins, mais d'avoir un point de repère en tout cas, et puis de rassurer la famille aussi, les proches et l'entourage.
Une cécité à pas de loup, souhaitons qu'ils deviennent disponibles en audio bientôt chez nous. En terminant, il me reste une minute.
Oui.
Bon, vous militez pour l'accessibilité sur quoi en particulier, parce que c'est un des enjeux importants pour vous.
Eh bien, justement, alors je vais vous dire, en prenant l'exemple de mon livre, parce que j'ai pas eu le temps de vous le dire, mon livre est accessible, il est en numérique sur Amazon et Kindle, et ça permet justement d'avoir accès à la lecture en utilisant l'option audio. Pour moi, c'est très important, c'est de permettre aux personnes qui sont différentes, finalement, en y pensant un tout petit peu et en faisant un effort de réflexion, de leur redonner leur place dans cette société et de leur permettre d'être plus ou moins comme tout le monde.
Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer, Sébastien Joachin. Ça risque de ne pas être la dernière fois que l'on se parle.
D'accord. Très bien. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Madame Campagna, bonjour.
Bonjour, Monsieur Fortin.
Comment vas-tu?
Très bien.
C'est vraiment le fun de t'entendre aussi joliment dans mes oreilles. Pour ceux qui ne sont pas nécessairement des fidèles, des adeptes, Christiane était au téléphone depuis un certain temps. Et là, elle est tout juste à côté de moi, à travers quatre plexiglas, deux murs de briques. Et...
Exactement.
Qu'est-ce que tu veux partager avec nous cette semaine?
Je vais parler un petit peu d'emoji. Ça suit le fait qu'une amie qui travaille dans les médias sociaux m'a écrit pour me poser une question. Je suis un petit peu rendue à 800 accessibilité.
C'est bon, ça. Hein?
Et puis, j'ai cherché un article. Ben, elle a dit, prends pas la peine de chercher. Mais j'ai dit, là, t'essaies d'empêcher une recherchiste de chercher. Ça... Et je suis tombée sur un article où c'était super bien résumé, super intéressant, et qui commence avec un exemple concret. L'autrice Beth Finkel avait reçu un texto qui disait, « Je te souhaite une nouvelle année prospère, un visage excité avec des symboles monétaires pour les yeux et une langue coincée. » Et là, la phrase se répète 5 ou 6 fois, je pense, de description de l'émoji parce qu'il avait été mis plusieurs fois. Et à la fin du message, il y avait « Es-tu libre ce soir, appelle-moi ». Elle ne s'est jamais rendue à la dernière partie du message parce qu'elle pensait qu'il restait que des emojis à la fin. Donc, elle n'a jamais appelé son ami pour sortir pour lui dire que ça était disponible.
Je fais ça des fois, moi, avec les courriels. Si vous mettez une ligne d'espacement dans votre courriel, ça se peut que j'arrête.
Voilà. Donc, elle dit « Oui, ça peut être intéressant, mais voici les choses à faire et ne pas faire lorsque vous utilisez des emojis dans vos textos ou que vous faites des publications de médias sociaux et que vous ne voulez pas exclure les personnes qui ont un handicap visuel. Les choses à ne pas faire, répéter plusieurs fois un emoji, mettre un emoji entre les phrases du message, et il y a même des gens qui en mettent entre les mots, précisément.
Oh, okay.
Ne pas mettre un appel à l'action après les emojis. Ouais. Les choses à faire, mettez-en un ou deux. La plupart des personnes aveugles sont amusées par la description. Ce que Google n'avait pas traduit du tout comme ça. Ah, j'ai oublié d'amener la traduction.
Okay,
mais ça disait que les personnes aveugles étaient... En tout cas, c'est comme si vous receviez la description en pleine tronche. c'était vraiment très drôle. Mettre toute information importante avant les emojis, afin que le ou la destinataire ait plus de chances de les entendre, et ne pas mettre plus de 3 emojis par message, chose que Google Translate avait aussi complètement ratée en disant le contraire, mettez plus de 3 emojis par message. Donc, elle conclut en disant, si vous utilisez les médias sociaux pour promouvoir votre entreprise, votre blog, votre chaîne YouTube, n'oubliez pas qu'il y a environ 300 millions de personnes dans le monde qui sont malvoyantes et parmi elles, plus de 50 millions qui sont totalement aveugles. Allez-y, mollo, avec les émojis et nous allons aussi recevoir le message.
Mais en même temps, je trouve ça fabuleux. C'est vrai là, que ça peut arriver et puis ça peut être embêtant, mais peut-être quoi, il y a un an et demi, là, il n'était même pas question de description d'émojis et tout ça. Là, non seulement on a les descriptions, mais on est rendu dans la mécanique. Ça avance.
Oui,
ça
avance.
Il y a plein de choses qui avancent pas, mais il y a plein de choses qui avancent.
Ceci dit, quand tu dictes tes messages à Siri, quand tu m'écris, il n'est pas rare que le mot sourire apparaisse.
Ben oui, mais je ne sais pas comment le faire. Je ne sais pas comment le faire, alors je le dis.
Moi-même, je dicte des textes à Google parfois et l'utilisation du mot virgule, c'est pas encore clair.
Okay, okay.
Et parfois, il écrit le mot virgule, parfois, il met une virgule.
Ouais. Non, c'est moi qui dis sourire.
On dirait que ça dépend de mon intonation.
Bonne semaine tout le monde. On se retrouve pour le lundi 22, Jean-Sébastien. Christiane, c'est super gentil. À vous, lâchez pas.